بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces majalis, ces assemblées de connaissances religieuses. L'objectif principal, l'objectif unique de ces majlis, de ces assemblées, c'est talab al-ilm, l'apprentissage de la connaissance religieuse. Quel que soit notre âge et quelle que soit notre ancienneté de la religion, qu'on soit musulman de naissance ou que ce soit reconverti, on est devenu musulman, on a eu la foi durant notre vie, quel que soit notre degré de pratique, quel que soit notre degré d'engagement également dans la religion, à tout moment, on a besoin de la connaissance religieuse. Jamais une personne ne peut se suffire du quota de ilm, de connaissance qu'elle a. À partir du moment où la personne se suffit de ce qu'elle a comme ilm, on va dire que cette personne ne va plus progresser dans sa religion. D'où l'importance de façon permanente, talab al-ilm, d'apprendre la connaissance religieuse. Et cela va nous permettre d'augmenter, de voir notre iman augmenter. Cela va nous permettre également de renforcer notre relation avec Allah Azza wa Jal. Car sans le moindre doute, celui qui adore Allah Rabbul Izzah en connaissant son Seigneur et en connaissant l'objectif du ibadah, cette personne a un degré supérieur à celui qui fait l'adoration d'Allah taqlidan, de façon traditionnelle, sans être capable de donner un sens à ses prosternations, sans être capable de donner un sens à son tawaf, à sa lecture du Coran, au dhikrullah. Dans un verset, Allah Azza wa Jal dit « Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ». Le sens de ce verset, est-ce qu'ils sont au même niveau, ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne connaissent pas? Donc, la connaissance religieuse qui sera greffée au a'mal saliha, aux bonnes actions, cela permettra aux croyants d'avoir un autre degré dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Également, le fait d'apprendre la connaissance religieuse. Et quand on parle d'apprendre la connaissance religieuse, très souvent les gens pensent que talab al-ilm, c'est s'engager, faire des études, devenir alim ou mufti, ou dire quitter son pays. Allez, certes, on pourrait dire que ça c'est le meilleur des cas de figure, hein, c'est consacrer sa vie pour apprendre la connaissance religieuse. Mais si une personne consacre une heure par jour pour l'apprentissage de la connaissance religieuse, ça s'appelle également talab al-ilm. Parfois, il ne faut pas voir les choses en grand, parce que quand on voit les choses en grand, quand on idéalise les choses, ben on se ferme des portes soi-même. On se dit que oui, mais les hadiths qui parlent de celui qui apprend la connaissance, trop tard pour moi, je suis déjà engagé dans tel métier, dans telle profession, ben c'est pour ceux qui ont fait un alim, eux ils ont, sans le moindre doute, on dirait que ces personnes-là, ils vont atteindre, incha'Allah, en fonction de la sincérité et des efforts qu'ils vont faire et la pratique qu'ils vont donner avec ce ilm, ils vont atteindre certainement le plus haut degré. Mais la personne qui donne un peu de son temps, yaoumiyen, régulièrement, ne serait-ce qu'une heure par jour ou un instant, on va dire que le moment qu'on passe dans le talab al-ilm, c'est un moment exceptionnel. Là, quand on est assis, on est en train d'écouter, on essaie d'apprendre la connaissance religieuse avec pour objectif de renforcer notre iman, de connaître mieux Allah Azza wa Jal, de mieux faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On peut être persuadé, on doit être persuadé que de ce mawqif, dans cette situation-là, Allah Azza wa Jal est satisfait et content de nous. Et les ulama disent qu'il n'y a pas plus grande satisfaction pour un croyant que de connaître qu'il a passé un moment de sa vie dans un endroit ou dans une assemblée, dans une situation où Allah Azza wa Jal était satisfait de lui. Ça c'est la consécration. Au-delà des vertus, au-delà des récompenses, savoir que je suis en train de passer mon temps dans une situation où Allah Azza wa Jal est content et satisfait de moi, c'est déjà un motif de satisfaction, pourrait dire spirituel. Le fait de savoir qu'Allah Rabbul Izzah est tellement content, tellement satisfait de ces gens qui se réunissent pour apprendre la religion, que Allah Azza wa Jal cite les noms de chaque individu présent dans l'assemblée des malaïka. Les savants disent que ça c'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de ces personnes qui apprennent, qui se réunissent pour apprendre la connaissance religieuse. Le fait de savoir qu'à l'issue de ces majalis, de ces assemblées, nos péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux, subhanallah? Allah seul sait le nombre de péchés que nous cumulons, les erreurs que nous effectuons, yawm ba'da yawm, jour après jour, consciemment ou inconsciemment, le fait de passer par des assemblées religieuses, même un instant, dans un hadith, hein, il est stipulé qu'un ange, je vais demander à Allah Azza wa Jal, question concernant la personne qui est passée de l'assemblée, qui s'est assis un instant sans connaître de quoi on parle. Allah Azza wa Jal est tellement généreux, tellement clément et tellement satisfait de ses assemblées qu'Allah Azza wa Jal a accordé également à cette personne les mêmes vertus que celui qui est venu depuis le début et qui est resté jusqu'à la fin. Et ça, on dit que ça, c'est une preuve évidente que ces assemblées-là, ce sont des assemblées bénies. Le prophète alayhi salatu wassalam a qualifié les assemblées religieuses comme étant rawdatun min riyad al-jannah, parmi les jardins du paradis. Ça veut dire, sahaba, quand vous passez auprès du jardin, des jardins du paradis, arrêtez-vous. Le sahaba dit au prophète d'Allah, c'est quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par les jardins du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, majalis dhikr, les assemblées de dhikr. Là, ça nous permet également de comprendre que quand on parle de dhikr, c'est ilm, les assemblées de religion. Hada. Donc, ijtima' marhum wa marfour. Une assemblée qui est bénie par Allah Azza wa Jal. Dans cette assemblée, les gens, ils vont bénéficier de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et nous allons également bénéficier du pardon de notre Seigneur. Et ce sont là des motifs de satisfaction. Alhamdulillah, nous en ressortons tous grandis de ces majalis. Ça, c'est en introduction, muqaddima. Maintenant, ce que nous allons puiser, ce que nous allons comprendre à travers le discours, le ilm, que ce soit tafsir, que ce soit hadith, que ce soit aqaïd, sirah, quel que soit le mawdou', quel que soit le sujet, ben c'est une connaissance qui va se greffer à ce que nous avons déjà comme ilm et qui nous permettra de mieux connaître notre religion pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Donc, en résumé, nous sommes chanceux, alhamdulillah, moi en premier, nous tous, d'avoir le tawfiq, d'être accepté par Allah Azza wa Jal pour se réunir, pour apprendre la connaissance religieuse. Et quand Allah Rabbul Izzah nous comble d'un tel bienfait, nous devons nous montrer, Mohamed, reconnaissant. On doit se montrer reconnaissant, remercier Allah Azza wa Jal et demander à Allah Rabbul Izzah d'une tawfiq d'être encore choisi, d'être élu encore et encore pour assister à des assemblées religieuses, quel que soit l'intervenant et quel que soit le sujet, tant que ça reste du ilm basé sur la parole d'Allah, la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la connaissance religieuse authentique. Alhamdulillah, nous allons bénéficier de ces fada'il, de ces vertus, incha'Allah. Alors, pour revenir un petit peu au mois de Sha'ban, lors de la dernière semaine, le dernier mardi, oui, avant le mois de Ramadan, donc à la fin de Sha'ban, on avait bi'idhnillahi azza wa jal complété Ashratu Sa'a al-Kubra. Depuis le temps qu'on dit Ashratu Sa'a al-Kubra, les grands signes de Qiyama, iktamalna, on a terminé bi'idhnillahi azza wa jal. On avait prévu de démarrer la sirah, la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi'idhnillah, on a plus ou moins réuni les ouvrages, les livres de référence parmi les mutaqaddimi, les anciens ou les contemporains, qui donnent une explication approfondie de chaque étape de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'est de quelle façon, quelles sont les leçons qu'on peut tirer dans chaque étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les appliquer de notre vie. Et c'est ça le plus important. Les savants disent que l'étude de la sirah, c'est connaître bien sûr le prophète sallam. Plus on le connaît, plus on va l'aimer. On voudra mettre en pratique sa sunnah sans le moindre doute. Mais en plus, c'est d'étudier tous les mawqifs, chaque situation que le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu durant sa vie et de voir quelle était sa réaction nabawi, sa réaction prophétique, afin d'appliquer, d'essayer d'avoir une réaction similaire lorsqu'on est dans des situations de difficulté, de bonheur, ou d'attente, ou d'angoisse, ou d'oppression. Et c'est un des objectifs essentiels de la sirah. Mais, durant le mois de Ramadan, on a changé d'intention. Durant le mois de Ramadan, alhamdulillah, on a pu, bi'idhnillahi azza wa jal, on a pu faire deux programmes concernant les attributs d'Allah azza wa jal. On a vu l'importance de connaître Allah azza wa jal. Ça, c'était à Saint-Louis. Et ensuite, on a étudié à Saint-Pierre un des noms d'Allah Azza wa Jal, c'était Rahman. On a combiné Rahman et Rahim. On a vu la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. En étudiant ces deux sifats d'Allah Rabbul Izzah, je vous assure qu'on a ressenti immédiatement l'effet sur les cœurs. Et on a ressenti également ce que cela peut nous apporter dans nos ibadahs, dans nos actes d'adoration, dans une période justement, on parle de Ramadan, où on multiplie les bonnes actions. Mais vous savez, multiplier les bonnes actions n'est pas forcément synonyme de dévotion, de concentration. Parfois même, lorsqu'on répète les mêmes bonnes actions, lorsqu'on les cumule, à un moment donné, il y a un petit peu de lassitude. Parce que nous restons des êtres humains. C'est normal. Alors que, subhanallah, lorsqu'on étudie avec un peu plus de précision quelques sifats d'Allah Azza wa Jal et qu'on réalise qui est Allah, lorsqu'on essaie de comprendre les qualités de notre Rabb, de notre Seigneur, je vous assure qu'il y a un impact sur notre iman, parce que ça fait partie des aqaïd, des croyances, mais il y a également un ta'thir, il y a un effet, je vous dis, immédiat, radical, dans la qualité des bonnes actions. Lorsqu'on connaît devant qui on se prosterne, lorsqu'on connaît pour qui je m'abstiens de manger et de boire, de jeûner donc, lorsque je connais également pour qui je m'éloigne du haram, je vous assure, c'est pas du tout la même chose. Comme on l'a dit en introduction, c'est pas du tout comme la personne qui accomplit les bonnes œuvres, taqlidan, par héritage, parfois culturel, par habitude, par tradition. Donc on a vu que le fait de connaître Allah Azza wa Jal, ça apporte énormément sur le plan spirituel par rapport à notre iman, notre croyance en Allah Azza wa Jal, mais également ça apporte de la qualité de l'accomplissement des bonnes actions. Quelles sont les qualités que normalement on recherche dans les bonnes actions? Quelle est la qualité essentielle, salih? Première qualité qu'on recherche dans une bonne action. Qualité intérieure, hein? Pas pour dire, par exemple, je donne l'exemple de la salah. Ne me dites pas que la qualité c'est d'avoir un vêtement de telle marque ou de mettre du oud et tout. On va dire ça c'est extérieur. Je ne dis pas que c'est accessoire, mais c'est secondaire. Quelle qualité intérieure on doit développer en priorité dans toutes les bonnes actions? Salih. Hein? Iman, la sincérité. Ikhlas. Dans toute bonne action, la base c'est ikhlas. Si on n'est pas sincère, Mohamed, tu es d'accord? Si on n'est pas sincère, ben l'action n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Et quand on est sincère, c'est là que va naître la dévotion. C'est là que va venir la concentration, ce qu'on appelle le khushu', la dévotion dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Maintenant, les savants disent, ils expliquent que pour être mukhlis, tu dois savoir pour qui tu accomplis la bonne action. Et ça veut dire quoi? Lillahi, lillah c'est pour Allah. Donc connaître qui est Allah. Lillahi wahda. Pour Allah, uniquement pour Allah. Le terme wahdahu, uniquement Allah Azza wa Jal, on doit réaliser que uniquement Allah, c'est pas uniquement Allah fi dhatihi, qu'un seul Dieu. Oui, mais pas uniquement ça. La notion de tawhid, d'unicité d'Allah Azza wa Jal, va être renforcée à partir du moment où on connaît les qualités d'Allah Azza wa Jal. Quand je connais qu'Allah est Sami' entend tout, mais je développe le tawhid d'Allah Azza wa Jal dans cette qualité d'Allah. Quand j'apprends qu'Allah est basir, qu'Allah voit tout, je développe l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah, dans cette qualité, dans cette sifat, et ainsi de suite. Et là, je vous assure que la notion, les savants disent que ma notion de tawhid, la force de mon tawhid, va être renforcée à partir du moment où je connais Allah Azza wa Jal, et j'arrive à faire ce qu'on appelle en arabe, ifradullah ta'ala, fi asma'ihi wa sifatihi. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Là, on atteint les plus hauts degrés de iman, les plus hauts degrés de foi. Parce que là, on apprend vraiment qui est Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, ikhwani fillah, mes chefs en islam, connaître Allah Azza wa Jal, on va dire que c'est awwal wajib. C'est le premier devoir, pardon, du musulman. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam, il explique les cinq piliers de l'islam. Bunya al-islamu ala khams. Premier pilier de l'islam, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadur Rasulullah. L'attestation qu'il n'a pas d'autre Dieu à part Allah. Et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète d'Allah. Les savants disent que les piliers de l'islam commencent par l'unicité d'Allah. Et quand on dit l'unicité d'Allah, le mu'min intelligent, quand il dit qu'Allah est unique, il doit connaître Allah Azza wa Jal pour affirmer son unicité. Lorsqu'on regarde l'autre hadith de base, Hadith Jibril, lorsque Jibril demande au prophète sallam, lorsqu'il apparaît sous la forme d'un être humain, il demande c'est quoi la foi. Le prophète sallam explique les piliers de la foi. Combien de piliers de la foi? 5. Tu es sûr, tu vends des livres islamiques? Combien de piliers de la foi? Les 6 branches de la foi. An tu'mina billah. Ensuite, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhiri wa al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wa ba'thi ba'da al-maut. An tu'mina billah. Ça commence par an tu'mina billah. Il dit que pour réellement développer iman billah, la foi en Allah, ça commence par connaître Allah azza wa jall. Les ulama de Sirah, ils expliquent que pendant les 13 premières années de la prophétie, les sahaba, ils ont appris iman, ils ont appris la foi et ils ont appris à connaître Allah azza wa jall. Ce qui fait que lorsque l'ordre de la salat est venu, lors de quel événement? Sulayman? Masha'Allah. Famille. Lors du voyage nocturne et que Allah Rabbul Izzah a accordé la salat aux sahaba, à la umma, ces sahaba, leur salat, elle était immédiatement parfaite. Elle était immédiatement parfaite. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Allah Azza wa Jal. Certes, ils priaient déjà. Ils avaient déjà commencé la salat. Ce n'était pas les 5 prières obligatoires. Ils savaient la salat. Mais lorsque cette salat est devenue obligatoire, les sahaba, ils ont réellement intégré que cette salat était un cadeau de la part d'Allah. Lorsqu'Allah donne la salat, lors du voyage nocturne, de des circonstances exceptionnelles dans l'histoire des prophéties et dans l'histoire de l'islam aussi. Jamais une action n'a été accordée à un prophète directement auprès du trône d'Allah Azza wa Jal. C'était là un cadeau d'Allah Rabbul Izzah. Et les sahaba, ils l'ont immédiatement compris que c'était là un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Peut-être que nous, Allah Musta'an, avec la faiblesse de notre iman, on peut parfois penser que c'est, astaghfirullah, que la salat est un fardeau. Il faut se lever fajr, il faut faire zuhur, et ainsi de suite. Ou d'un regard extérieur, ceux qui n'ont pas la foi, ils se disent que c'est contraignant. Il doit se tenir en prosternation, debout, avec les ablutions 5 fois par jour. Les sahaba, ils avaient réalisé que c'était un cadeau parce que c'était la possibilité pour le croyant d'établir un lien direct avec Allah Azza wa Jal. Sachant que lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il y a une réponse de la part d'Allah Azza wa Jal. Hamidani Abdi. Lorsque on lit Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmidin, il y a une réponse de la part d'Allah Azza wa Jal. Chaque prière, c'est un échange avec notre Rabb, avec notre Seigneur. Le simple fait d'expliquer ça, ça c'est, on le retrouve dans le tafsir d'Al-Fatiha, on se dit que ben, subhanallah, ça fait peut-être 35 ans que je prie, j'ai jamais réalisé que la salat était un dialogue. C'est un échange avec Allah Azza wa Jal. Donc, plus on apprend, plus on connaît, plus on prend considération des actions qu'on accomplit. Donc, les sahaba, comme ils connaissaient leur Seigneur, ben, leur salat était vraiment sabab d'épanouissement. Ils se sont vraiment épanouis sur le plan spirituel par le biais des salats. Donc, les savants disent que si nous voulons que notre salat atteigne un degré, on ne pourrait pas dire similaire, mais un certain degré, un peu comme le sahaba et ainsi de suite pour toutes nos actions, ben absolument, il est urgent de connaître notre Rabb, de connaître notre Seigneur. C'est pour ça que les savants disent que ça c'est awwal wajib, c'est la première des obligations pour chaque croyant. Également, il va de soi que lorsque nous sommes donc musulmans, nous vivons une vie de droiture, d'obéissance, ben je dois comprendre pour qui je me prive de certaines choses, comme on a dit tout à l'heure, mais également pour qui je fais preuve de patience, d'endurance, dans les bonnes actions. Le fait de quitter sa maison pour venir à la prière, le fait de jeûner, et ainsi de suite, on va dire que c'est des contraintes d'une certaine façon. Mais le fait de savoir pour qui je le fais et connaître notre Rabb, ça nous permettra de prendre considération de la chance que nous avons en consacrant du temps pour notre Seigneur. Et ces actions, on va finir par les accomplir avec amour d'Allah Azza wa Jal. Ta'ziman lillah. Dans chaque acte d'adoration, on doit ressentir l'amour pour Allah et on doit ressentir la grandeur d'Allah. C'est ça qui va donner l'éclat à nos bonnes actions. C'est ça qui va donner l'ampleur, qui va nous permettre d'atteindre halawatul iman, la douceur de la foi. Contrairement à celui qui prie, qui jeûne, ainsi de suite, sans réellement comprendre le sens de ses actions. Donc, la clé, ikhwan fillah, la clé dans tout ça, c'est de connaître Allah Azza wa Jal. Et comment connaître Allah Azza wa Jal? Par le biais de ses noms et de ses attributs. Hada. Les savants disent également, on ne va pas être trop long, non, c'est juste l'introduction,
qu'on a besoin, subhanallah, d'avoir certaines qualités. On avait parlé de la sincérité tout à l'heure. On a besoin également de développer la dévotion, la concentration. Et cela passe par connaître Allah Azza wa Jal. On a besoin également, par exemple, donne un autre exemple, hein, une des actions, une des bonnes actions les plus importantes et que nous faisons normalement, régulièrement, et que nous faisons aussi et principalement dans les moments de difficulté, dans les moments d'angoisse ou de stress, les du'as. Ça me dit que ad-du'a wal-ibad, les du'as, les invocations, c'est la bonne action par excellence. C'est la bonne action par excellence. Les savants disent que celui qui lève les mains et qui demande du'a, sans connaître qui est Allah, sans connaître le qudrat d'Allah Azza wa Jal, la puissance d'Allah Azza wa Jal, ça, entre guillemets, sa capacité, la capacité c'est un terme pour nous, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, sa capacité à exaucer toutes nos demandes, sans limite de temps, sans condition, sans intermédiaire, celui qui ne connaît pas la puissance d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il aura la conviction de ses demandes? Alors que celui qui connaît les qualités d'Allah Rabbul Izzah et qui connaît l'histoire des prophètes, qui connaît comment Allah Azza wa Jalla a accepté les invocations de différents anbiya alayhi salat wa salam, des situations très compliquées, mais lorsqu'il lève ses mains et qu'il invoque Allah Azza wa Jalla, que ce soit en levant les mains en demandant ou alors dans son cœur, celui qui connaît son Seigneur, qui connaît la puissance d'Allah Azza wa Jalla, assurément ce dua là aura, ce sera d'un autre niveau. La puissance et l'impact de ce dua, on va dire, sera propulsé par sa connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et quand on a la conviction de nos demandes, on a plus de chances d'être accepté. Ces doigts ont plus de chances d'être acceptés par Allah Azza wa Jal. Savant dit également, subhanallah, imaginez, lorsque nous lisons les hadiths, les textes, les récits qui décrivent la concentration, la dévotion des sahaba, on revient à l'histoire des salats, de leur prière. L'histoire de cette personne qui avait reçu une flèche de sa cuisse et qui avait dit que, ben voilà, pour enlever la flèche, il fallait qu'on lui fait boire de l'alcool pour qu'il tombe dans un, ce qu'on appelle de nos jeux, un coma, un éthylique, pour qu'il soit inconscient, pour enlever, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, bien sûr. Sahaba a refusé, dit que je fais 2 unités de prière et pendant la salat, vous pouvez m'enlever cette flèche. En commentaire, les savants disent, voyez le degré de concentration des sahaba. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient, ils se déconnectent complètement de ce dunya. C'est comme si ces 5 sens ne sont plus connectés à son corps. C'est une relation avec Allah qui dépasse l'entendement. Et que, quand nous on lit ça, on se dit que ben, y a un problème, il y a un décalage. On ne parle pas de la même prière. Lorsque nous entendons que le prophète Ali Salat wa Sahaba dit que j'ai rejoint le prophète Sassam qui faisait la prière de la nuit, dans la première rakat, il a lu Al-Baqara. Il dit que j'ai pensé qu'à la fin de Baqara, il allait s'arrêter, il a continué sur Ali Imran. Et lorsqu'il est parti de Rukour, et c'est ça le plus impressionnant, parce qu'on va dire qu'une personne peut tenir 1 heure. Combien de temps il faut pour Baqara? 1 heure, 1 heure, 1 heure 15. Ali Imran, 45 minutes, 50 minutes. On va dire que, allez, c'est, humainement, on peut concevoir que quelqu'un reste debout 2 heures. Bon, maintenant, la dévotion, la concentration de notre Habib sallallahu alayhi wa sallam et la nôtre, ça n'a pas, on ne compare pas. Si on compare nos salats de tarawih, à grande vitesse TGV, où on va enchaîner les versets pour compléter le plus vite. Et non, lorsque le hadith décrit que le prophète à chaque verset où il y avait des invocations, il demandait à Allah Azza wa Jal. Chaque verset qui parlait du paradis, il demandait à Allah de lui accorder telle chose. Chaque verset qui mettait en garde contre les châtiments de la tombe ou du jahannam ou autre chose, il demandait protection. Donc c'était une lecture réfléchie avec ce qu'on appelle tadabbur. Ça c'est une qiyam. Ça c'est une lecture qui est réfléchie où le croyant se connecte à chaque ayah. Et il voit le sens de chaque ayah. Et il vit chaque ayah lorsqu'il lit. Et il s'oriente vers celui qui a révélé. Vraiment, c'est un autre niveau. C'est le niveau prophétique. Donc, une personne peut concevoir rester debout 2 heures. Mais là où, franchement, on est frustré, c'est la suite du hadith dit que « ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ » Là, franchement, ça nous casse. Il dit que le prophète, ensuite, il s'est mis en génuflexion, il a fait le recours. Un recours aussi long que le qiyam. Un recours aussi long que la position debout. Le temps de lire al-Baqara al-Imran, il a passé le même temps de le recours. Et là, on se dit que subhanallah, c'est autre chose. Bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah, c'est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, sans le moindre doute. Mais beaucoup de sahaba arrivaient à un niveau on ne va pas dire égal, mais à ce genre de niveau dans leur prière de la nuit. Et donc, quand on lit, on va garder que ces deux exemples, et on se dit qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas de la religion, le problème ne vient pas des prières, le problème vient bien de nous. Alors que le gestuel est le même. Le gestuel de la salat est identique. Les périodes, les heures sont identiques. Mais qu'est-ce qui fait que eux ils avaient cette dévotion, concentration, et que nous, on n'a même pas 1%? C'est la connaissance d'Allah Azza. Le fait que les sahaba, ils avaient atteint un degré de iman où ils connaissaient parfaitement leur Seigneur. Ils connaissaient les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils connaissaient pour qui ils se tenaient debout. Ils savaient pour qui ils se tiennent dans le cours. Une position qui est inconfortable, le cours, qui est difficile. Mais ils pouvaient passer des longs moments parce qu'ils savaient pour qui ils le faisaient. Et ainsi pour les sijda et pour l'ensemble des actes d'adoration. Donc, les savants disent, c'est en connaissant notre Seigneur qu'on arrive un peu à intégrer le sens profond de ces amal, de ces actes d'adoration. Deuxième exemple, on va s'arrêter pour ce soir, Inch'Allah. Lorsque on entend parfois les hadiths concernant la mort, qui décrit comment est-ce que les anges, Malik al-Maut, comment est-ce qu'il reprend l'âme du croyant pieux, accompagné d'autres malaïka, et qu'ils annoncent à cette personne qu'Allah Azza wa Jal t'adresse ses salams. Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et qu'on lit le verset, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. On se dit que à ce point Allah Azza wa Jal aime le croyant. Et en commentaire, les savants disent que bien malheureux cette personne qui réalise comment Allah aime le mu'min uniquement au moment de mourir. Alors que s'il savait durant chaque jour de sa vie de croyant qu'Allah Azza wa Jal nous aime plus que tout ce qu'on peut concevoir en termes d'amour, ben notre relation avec Allah Azza wa Jal aurait été différente. Parce que notre relation avec Allah Rabbul Izza ne doit pas être basée uniquement sur la crainte. Quand on dit la crainte d'Allah, c'est pas que j'ai peur, si je fais une erreur, Allah me punit. Non, ça doit être basé sur l'amour et la crainte. Donc le croyant qui n'a jamais compris à quel point Allah Azza wa Jal aime ses créatures, on peut dire que ses prosternations et tout, il les a fait. Mais est-ce qu'il a trouvé le halawa? Est-ce qu'il a trouvé le plaisir, le maladha qu'il y a dans ses actions? Malheureusement, il ne les aura pas trouvés. Le prophète Azza me donne un exemple, on termine avec ça. Il dit qu'une fois, il était avec les sahaba. Il y avait une maman qui tenait son bébé. Et cette dame allaitait le nourrisson. Le prophète Azza dit aux sahaba, aux mes compagnons, pensez-vous une seconde, il y avait un feu qui était allumé. L'histoire est très connue. Pensez-vous une seconde que cette maman puisse prendre ce bébé et jeter dans le feu? Ça veut dire, prophète d'Allah, jamais de la vie. Le prophète dit aux sahaba, sachez, ô mes sahaba, Allah Azza wa Jal aime ses créatures plus que cette maman aime son bébé. Quand on lit ce genre de texte et on découvre qu'Allah Azza wa Jal aime ses créatures, assurément, ikhwani fillah, il y a quelque chose qui naît dans le cœur. Je ne dis pas qu'on voit Allah, mais on a une relation différente. Le prophète me dit, c'est un hadith très important, c'est un hadith qudsi, qu'Allah, de le sens du hadith, Allah agit avec ses créatures en fonction de la conception, comment est-ce qu'on conçoit notre Seigneur. Si on est au courant, on est conscient qu'Allah nous aime et qu'Allah va nous pardonner et qu'Allah a telle qualité, Allah va agir avec nous de cette façon. Celui qui pense qu'Allah il va juste nous punir, il m'arrive une épreuve, c'est la punition d'Allah, je suis perdu, Allah ne m'aime pas, ben Allah va agir de cette façon avec toi. Ça, c'est un hadith qudsi, un des hadiths basiques qui nous fait comprendre qu'il est important de connaître Allah Azza wa Jal pour qu'Allah agisse de la meilleure des façons avec nous. Donc, ikhwani fillah, le premier dars, l'objectif est d'annoncer, d'accord, le nouveau chapitre, le nouveau thème, inshallah, qu'on va commencer, qui va durer, je pense, j'estime peut-être un an, inshallah, c'est connaître Asma'ullah al-Husna. Étudier les noms d'Allah Azza wa Jal afin de mieux connaître Allah Azza wa Jal, de connaître notre Seigneur pour mieux l'adorer. L'objectif, au-delà de l'introduction, je pense qu'on a encore une ou deux séances concernant l'opinion des savants sur l'importance de ce bab min al-ilm. On va essayer, l'objectif c'est chaque séance, chaque mardi, enfin mardi sur deux, on étudie un nom d'Allah Azza wa Jal. Lughatan, qu'est-ce que ça veut dire? On voit des versets. On essaie de voir des ayats, des hadiths, pardon, qui donnent des explications, et nous voyons comment construire notre relation, comment reconstruire notre relation avec Allah Azza wa Jal à partir de cette qualité que nous venons d'apprendre, de découvrir, comment renforcer notre alaqa, notre relation avec Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Rabbul Izzah donne istiqama, donne la possibilité de le faire avec sincérité, constance et de le mettre en pratique. Qu'Allah nous accepte. Souma tawfiq illa billah. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.